à 13h30.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente Boldini, les plaisirs et les jours. Cette exposition consacrée au peintre italien invite à revivre les plaisirs de la belle époque et plonge le visiteur dans les cercles artistiques et mondains de la capitale au début du XXe siècle. Le parcours, riche de 150 œuvres, livre une représentation émouvante de ce Paris perdu. Boldini, les plaisirs et les jours, jusqu'au 24 juillet au Petit Palais à Paris. Un partenariat France Culture.
Bon samedi à l'écoute de France Culture, 14h, c'est l'heure de votre séance cinéma avec Antoine Guillot.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
De Sissi au Sans Souci, visite guidée de l'exposition Romy Schneider à la Cinémathèque française avec Clémentine Deroudy, Faustine Saint-Geniès et Ntebin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. C'est une star absolue, une icône des années 70, l'incarnation de la femme française moderne, libre et épanouie. C'est en tout cas l'image qu'on garde d'elle grâce notamment à la rediffusion constante de ses films à la télévision 40 ans après sa mort prématurée. Mais Romy Schneider ne s'est pas construite en un jour. Ce fut le résultat d'une réinvention constante de celle qui naît Rosemary Magdalena Halbach, dans la Vienne de l'Anschluss, de parents vedettes du cinéma du Troisième Reich, fut d'abord la petite fiancée autrichienne du cinéma allemand renaissant après-guerre, celui des Heimatfilms et autres opérettes viennoises, ces pâtisseries qu'elle déplorait, et en premier lieu, la série de bluettes impériales des Sissi, qui firent d'elle, dès l'adolescence, une sorte de trésor national. Elle s'en échappe dès la fin des années 50, mais le chemin sera long, passant par certains des plus grands cinéastes de la décennie, Luchino Visconti, Orson Welles, Joseph Losey, le jeune Alain Cavalier et le déclinant Henri-Georges Clouzot, le vétéran Otto Preminger et le débutant Woody Allen, dans une courte incartade hollywoodienne avant que la piscine de Jacques Deray ne la mue en sex-symbole et qu'elle ne rencontre enfin celui avec qui elle va cristalliser sa persona cinématographique, Claude Sauté, 5 films ensemble en 8 ans, des choses de la vie à une histoire simple. Une actrice au travail, au-delà de la légende tragique de la star, c'est cela que raconte la belle et inspirée exposition de la Cinémathèque française que nous allons dans un instant vous faire visiter, guidée par sa commissaire Clémentine Deroudy, accompagnée de Faustine Saint-Geniès, autrice d'un livre à paraître jeudi prochain, Romy Schneider, les actrices se brisent si facilement. Avec eux, notre sautétien en chef, Ntebin, qui en fin d'émission nous vantera au tuba tous les mérites de l'extravagant Mr. Deeds de Frank Capra, qui ressort dans sa version restaurée en DVD et Blu-ray. Auparavant, Mathieu Rosé nous aura emmené dans la torpeur estivale de son huis clos solaire et intemporel, Azzurro. Mais pour l'heure, on commence la visite accueillie par le visage de l'Hélène des choses de la vie qui nous regarde droit dans les yeux.
Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus, tu ne m'aimes plus.
Nous voilà dans l'entrée de l'exposition Romy Schneider à la Cinémathèque et on est tout de suite accueillis par le regard de Romy Schneider. C'est une émission qui nous regarde dans les yeux, souvent. En tout cas, le visage de Romy Schneider le fait. Clémentine de Roudy, pourquoi ce choix scénographique, avant même qu'on parle du fond de cette exposition ?
La scénographie est aussi importante que ce qu'on montre, en fait, ce qu'on dévoile. Et je voulais absolument qu'on retrouve une Romy Schneider vivante. D'ailleurs, elle pourrait être avec nous aujourd'hui. Et puis, cette exposition s'est montrée que les actrices ne meurent jamais. Elles sont là, elles sont avec nous. Et donc, c'était pour moi essentiel qu'elles puissent accueillir les visiteurs dans un des films emblématiques. Là, c'est Les choses de la vie. Et puis, d'être tout de suite happée par sa beauté, par son charme, par cette espèce de magie du cinéma.
Alors, il y a un effet de montage temporel tout à fait sidérant, puisqu'on... On commence par la Romy Schneider, incarnation de la femme française, icône des années 70. Et puis forcément, exposition monographique oblige, on se replonge dans ses débuts, son enfance. Et son enfance, c'est une adolescente de 15 ans qui devient une star presque immédiatement en tournant dans un cinéma particulier qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir, que la rétrospective de la Cinémathèque française va aussi permettre de redécouvrir. Ce sont ces opérettes et autres Heimatfilms. Qu'est-ce que c'est que le Heimatfilm, Clémentine de Roudy ?
Ce sont ces films, alors moi je dis les films de terroir, mais c'est-à-dire c'est des films qui, en sens, enfin là je vois les images de Sissi, mais l'herbe fraîche, un passé glorieux, en fait pour faire passer et oublier surtout le passé récent de ces pays quand même qui ont eu quelques déboires et quelques malheurs et quelques atrocités. Et donc il y a des producteurs et des réalisateurs qui remettent au goût du jour ces Heimatfilms, dont le fameux Ernest Marischka, qui devient le plus grand producteur autrichien de cinéma et qui sera celui qui découvrira véritablement Romy Schneider et qui la fera exploser dans Sissi quelques années plus tard, quoi. Puisque Romy Schneider n'a pas démarré avec Sissi, mais a commencé d'autres films, 5 films avant d'exploser sur grand écran, avec toujours sa mère, parce que c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est de voir à quel point en fait la carrière de Romy Schneider n'a pas démarré seule, mais elle a formé un duo de cinéma avec Magda Schneider, sa mère, et ce n'est pas sa mère qui a voulu cela, mais ce sont les producteurs et les réalisateurs qui ont trouvé dans ce couple une espèce d'image pareille, bonne enfant, joyeuse, merveilleuse, de la belle famille, de la jolie jeune fille et de sa maman éperdue d'admiration, etc. C'est évidemment beaucoup plus compliqué que cela.
C'est beaucoup plus compliqué parce que faut quand même préciser que Magda Schneider n'est pas complètement inconnue des spectateurs allemands et autrichiens. Faustine Saint-Geniès, non seulement Romy Schneider vient d'une grande famille d'acteurs, mais ses deux parents ont été des acteurs éminents de la période nazie du cinéma allemand.
Son père avait même commencé à percer bien avant, puisqu'il a été une des figures de l'avènement du cinéma parlant allemand. Au moment où les studios de Lufa se créent, il était la figure montante et les deux parents de Romy Schneider se sont rencontrés sur un plateau de tournage. Ils ont tourné un certain nombre de films, même avant l'avènement du régime nazi. Et ensuite, ils ont été le couple qui a incarné les films à l'eau de rose de la période nazie.
Ça me semble toujours important parce qu'on tape énormément sur Magda Schneider et c'est plus compliqué. Et s'il y avait un des deux qui était vraiment un acteur officiel du régime nazi avec sa nouvelle épouse, c'était Wolf Abaretti, le père de Romy Schneider. Et sa femme, Trude Marlène, parce qu'il quitte assez rapidement Magda Schneider pour Trude Marlène, il était très proche d'Himmler. C'est sa grand-mère adorée, Rosa Albaretti, la mère de Wolf Abaretti, qui était la grande actrice du Burgtheater, j'ai une très mauvaise prononciation, qui était aussi une actrice officielle du parti nazi. Voilà, Magda s'est débrouillée. Je dis pas du tout, c'est pas du tout pour excuser Magda, mais c'est vrai qu'on fait porter un peu le chapeau toujours à sa mère. Essayons d'aller voir plutôt du côté des Wolf Abaretti, qui sont, quand même beaucoup plus noir que ce qu'on en dit.
Et puis on parle d'année de purgatoire de Magda Schneider. Ce qu'il faut voir surtout, c'est qu'à la fin de la guerre, il n'y avait plus de studio. C'est-à-dire que la plupart des studios étaient passés sous pavillon soviétique. Tout avait été décartélisé, démantelé, Lufa avait disparu. Et donc avant même d'être au purgatoire, elle était juste au chômage. C'est aussi ça le problème de l'immédiate après-guerre. Et ensuite, il y a eu les différentes zones d'occupation des Alliés. Et il y avait des règles différentes selon la zone où vous étiez. Donc ça a été très compliqué pour elle de reprendre le travail à ce moment-là.
Je l'ai dit, ces Heimatfilms, on les connaît très mal en France. Par contre, on connaît très bien La Romy Schneider, Sissi, puisque ce fait partie des films diffusés, rediffusés, non seulement en Allemagne et en Autriche, mais en France. Donc, on a dans cette exposition une sorte de baldaquin impérial dans lequel est présenté en majesté des extraits de Sissi. Tiens, Ntebine, on ne vous a pas encore entendu. Qu'est-ce que ça incarne, qu'est-ce que ça représente, la Sissi, première manière? Puisqu'on va voir que Elisabeth d'Autriche va revenir plus tard dans la filmographie de Romy Schneider.
Bah ça, en fait, Romy Schneider en Sissi a baigné l'enfance, à mon avis, de quasiment tous les petits spectateurs du monde depuis les années 50 jusqu'à presque aujourd'hui, puisque le film continue d'être, par exemple, diffusé à la télévision française en version doublée, d'ailleurs. C'était un peu des contes de fées. C'est une image que Romy Schneider n'aimait pas, en fait. Et je me souviens que c'est la Graziella Sautet, la femme de Claude Sautet, qui me disait, mais Romy Schneider, en fait, quand elle a joué le rôle d'une prostituée dans Max et les Ferrailleurs, elle a dit à Claude Sautet, merci, tu m'as lavé de Sissi.
Ce qui est très intéressant dans cette exposition, Clémentine de Rudy, et c'est sans doute votre grande innovation, parce que vous avez retrouvé beaucoup de photos de tournage, c'est que vous montrez Romy Schneider au travail. Et pour elle, par exemple, Sissi, c'est pas du tout un conte de fées. C'est un tournage assez éprouvant, tout de même. Vous avez, par exemple, pesé la perruque de Sissi, c'est 6 kilos qu'il faut se mettre sur la tête tous les jours.
Oui, j'ai refait la perruque, parce que cette perruque de 6 kilos, il faut quand même se dire, voilà, de 7h du matin jusqu'au soir, elle me porte tous ses cheveux. Visconti s'en est amusé, puisqu'elle refait cette même perruque. Donc effectivement, il y a la dureté des tournages, le fait qu'elle n'arrête jamais, etc. Après, moi, je mets juste un tout petit bémol, c'est-à-dire qu'effectivement, comme dit Bine, elle avait du mal à se nettoyer par rapport à ce personnage, mais en même temps, elle avait parfaitement conscience de ce qu'elle devait à Sissi. C'est-à-dire que son immense carrière et sa liberté, une liberté de choix aussi, etc., c'est venu de Sissi. Sans Sissi, elle n'aurait par exemple pas rencontré Alain Delon, elle n'aurait pas, je pense, pu partir en France. Enfin, on n'en sait rien, parce qu'elle avait une telle liberté en elle, et puis un tel talent surtout. Et moi, il me semblait extrêmement important, parce que souvent, les actrices, on parle de leur beauté, de leur photogénie, etc. Moi, j'ai surtout envie de parler de travail, quoi, parce qu'en fait, c'est surtout une immense travailleuse. C'est quelqu'un qui a passé, dès son plus jeune âge, à approfondir, à travailler, à répéter, à avoir une relation privilégiée avec ses réalisateurs. Finalement, Claude Sautet en est l'exemple ultime. Mais c'est ça, Romy Schneider. Et donc, moi, ça me semblait extrêmement important de montrer une iconographie nouvelle d'une Romy Schneider entourée des autres. C'est une femme de troupe. C'est une femme qui aime vivre sur les tournages. C'est une femme qui ne quitte pratiquement jamais les tournages. Elle peut tourner jusqu'à 4 films par an. Et voilà, et c'était un peu l'envers du décor. Et d'ailleurs, toute la scéno, c'est ça, c'est une forme de décor de cinéma qui permet aussi de nous dire ce que c'est que vraiment le cinéma.
Alors, elle tourne 4 films par an, mais en même temps, c'est ce qui fait son succès, et puis c'est ce qui l'étouffe. Parce qu'elle se décrit comme une pâtisserie viennoise prête à être dévorée. Elle ne peut pas sortir dans la rue sans être happée. Même son partenaire a sa cravate arrachée. Enfin, les gens imitent ses coiffures, imitent ses toilettes dans Sissi. Son identité lui échappe presque avec Sissi. Et il y a cette partie-là, sa vie publique, ses apparitions publiques, puis il y a aussi sa vie privée qui lui échappe parce que elle décrit une oppression de la part de ses tuteurs qui sont sa mère et son beau-père, Daddy Blatzheim. Elle est au régime depuis ses 14 ans et il y a une scène que moi j'ai trouvée très frappante, c'est que elle se retrouve à un gala avec une comédienne allemande très connue qui revient de Broadway qui s'appelle Hildegard Knef, qui la voit débouler dans sa chambre comme un animal traqué et qui décrit une gamine tremblante. Le téléphone n'arrête pas de sonner, le service de presse, ses parents la harcèlent pour la retrouver, et elle est au bord de la crise de nerfs en permanence, dès qu'elle sort de tournage, si vous voulez. Donc il y a aussi ce poids-là qui participe de son refus de continuer Sissi à un certain moment.
Alors, Sissi, donc je l'ai dit, elle la retrouvera plus tard, et vous avez, Clémentine de Rudy, prononcé le nom de Visconti par un effet de montage cinématographique et scénographique face à ce portrait d'Elisabeth d'Autriche qui sort tout droit du château de Schönbrunn. Nous avons l'Elisabeth d'Autriche de Visconti, on voit sa robe ici et on voit les affiches de Ludwig. Alors comment celle qu'elle va incarner dans le film de Visconti dialogue avec cette Sissi de conte de fées dont parlait Ntebine tout à l'heure, Clémentine de Rudy?
Mais Visconti est essentiel dans la vie et la carrière de Romy Schneider. Et il s'amuse en 72 à lui proposer ce rôle et qui devient, c'est un peu le règlement de compte, quoi. C'est-à-dire que là, on a l'envers du décor et puis il y a une scène que je propose dans l'exposition où tout d'un coup, elle nous raconte vraiment ce que c'était qu'Elisabeth d'Autriche et sa vie et qu'elle se tapait les palefreniers, que son époux aussi n'était jamais là, que sa belle-mère était épouvantable, etc. et tout ça. Et donc, c'est un jeu de miroir. Cette espèce de règlement de compte de ce personnage qu'elle a eu tout au long de sa vie, tout d'un coup, son maître, parce qu'elle appelait son maître, Visconti, a réglé son sort, quoi. Et puis, c'est un magnifique film. Et donc, c'est vrai que pour nous, dans la scénographie de l'exposition, il était évident qu'il fallait, le noir et puis les couleurs et qu'il soit juste à côté, parce qu'on est quand même dans une exposition sur le cinéma. Hein. On est à la Cinémathèque française et moi, je parle de cinéma ici. Donc c'était essentiel. Ouais.
Franz, que se passe-t-il?
Mais rien, je t'assure.
Tu reviendras, n'est-ce pas? C'est vrai. Tu reviendras un jour. Réponds.
Mais bien sûr, voyons. Pourquoi cette inquiétude?
Parce que je n'ai aimé personne avant toi. Et que je n'aimerai personne après. Oh, Franz, ce serait affreux si je ne te voyais pas.
Clémentine de Rudy, vous dites que c'est une exposition de cinéma, certes, mais une des pièces maîtresses de cette exposition, c'est une robe de théâtre. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette robe et en quoi on continue à parler de la même chose puisqu'on vient de parler de Ludwig?
Parce que cette robe appartient à Alain Delon. Et donc oui, alors on parle de cinéma, mais en fait, leur rencontre s'est faite évidemment sur le film Christine, mais elle a continué, on continue à parler de Visconti. C'est Visconti qui propose à Romy, une fois qu'elle a réussi enfin à quitter son pays, elle s'installe à Paris, et l'immense Visconti lui propose de monter sur scène dans une pièce qui s'appelle « Dommage qu'elle soit une putain » avec Alain Delon. Et elle répète, il travaille de façon intense, comme d'habitude avec Romy Schneider, et elle triomphe sur scène. Et c'est un moment extrêmement important, presque charnière, plein de moments charnières dans la carrière de Romy Schneider. Alors effectivement, c'est le théâtre, mais c'est Visconti. Donc bon. Et ça amène, évidemment, après les tournages avec Visconti. Ce qui est très intéressant aussi chez Romy Schneider, c'est que son modèle est sa grand-mère, Rosa Albaretti, et qu'elle ne cessera de dire tout au long de sa carrière « je veux faire du théâtre, je veux faire du théâtre, je veux faire du théâtre ». Comme si ça lui permet de légitimer son talent, quoi. Et que c'est le théâtre qui prouve le travail. Quand Visconti lui propose ça, elle en est très heureuse. Après, 2 ans plus tard, elle montera sur scène pour La Mouette, enfin... Et puis elle ne remontera plus jamais sur scène, mais ça c'est un véritable regret, puisqu'elle a vraiment tout au long de sa carrière, quand elle quitte Paris pour aller à Berlin, c'est pour refaire du théâtre, et puis elle rencontre Harry Meyen, et ça c'est une autre histoire.
Les années 60, Faustine Saint-Geniez, c'est une époque assez étrange pour Romy Schneider, puisque quand elle est avec Alain Delon, elle l'accompagne sur les tournages, elle regarde, il y a des photos d'elle sur le tournage du Guépard par exemple, elle rêve de tourner avec beaucoup de cinéastes avec lesquels tourne Alain Delon. Et puis, elle va faire une tentative hollywoodienne qui est un peu oubliée. Et vous racontez dans votre livre qu'entre elle et Hollywood, ça n'a jamais été très simple, Faustine Saint-Geniez.
Non, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu 3 échecs à Hollywood. Le premier, c'est en 57. Elle est Sissi. Elle incarne Sissi au Festival de Cannes. Kirk Douglas, qui à l'époque est acteur, producteur, lui propose un contrat avec la Paramount. Elle doit décliner parce qu'elle a déjà des engagements en Allemagne pour le troisième Sissi. L'année suivante, c'est Walt Disney qui lui fait un appel du pied. Et là encore, catastrophe. Arrivée dans les grands studios hollywoodiens, elle redevient une gamine à l'anglais hésitant et elle échoue. Et il faudra attendre le début des années 60 pour qu'elle reçoive un télégramme d'Orson Welles pour jouer dans Le Procès. Et que là, sa carrière hollywoodienne décolle enfin. Mais à nouveau, on va dire, le timing n'était pas le bon puisque... Ça coïncide aussi avec sa rupture avec Alain Delon. Elle est tiraillée entre son jeu à elle, qui est très européen, qui est tout d'un jet, qui est presque brut. Elle a ça en elle d'être comédienne, et elle se heurte à la méthode de l'acteur studio. Bref, Romy Schneider et Hollywood, c'est vraiment trois rencontres et 3 échecs qui la réconcilieront avec le cinéma français plus tard et qui en feront une immense actrice française, mais jamais une actrice hollywoodienne.
Malgré tout, elle tourne avec au moins un immense génie d'Hollywood, qui est Orson Welles, mais justement, il n'est pas d'Hollywood. Et Otto Preminger, voilà, ça ne sera pas la grande carrière hollywoodienne, mais ce qui est très intéressant dans le procès, c'est que c'est une Romy Schneider qu'on n'avait pas encore vue. Et ça revient régulièrement. Tout d'un coup, Romy Schneider n'a pas de maquillage et ça change tout.
Romy Schneider, elle essaye toujours d'aller dans le travail, absolument. Moi, je remettrai un petit peu un bémol sur les échecs. Pour moi, ce n'est pas des échecs, c'est qu'elle n'aime pas la pression des studios, etc. Tourner avec Jack Lemmon, tourner avec Otto Preminger, le premier film de Woody Allen, etc. C'est qu'elle n'est pas faite pour ce cinéma-là. Je pense qu'elle ne supporte pas la pression qu'il y a sur les actrices. Et effectivement, il y a la rupture avec Delon. Pour Orson Welles, c'est vraiment, elle va le chercher encore une fois aussi avec les dents. C'est-à-dire qu'elle a cette immense intelligence, Romy Schneider, de savoir où sont les génies, quoi. Et donc, pour elle, c'est un rêve absolu. Et effectivement, elle a cette espèce de chose, de cette ambivalence incroyable, parce qu'elle est toujours dans une recherche de vérité. Mais en même temps, le jeu, bah, c'est jouer, donc c'est tout sauf être vrai. D'où le fait d'ailleurs qu'on l'ait beaucoup confondu avec ses personnages. Elle veut être, voilà, dans quelque chose dont on voit la peau, on voit. Et puis, avec Orson Welles, c'est un espèce de jeu aussi où elle va changer le rôle que Orson Welles lui propose. Elle va proposer à Orson Welles de jouer dans son propre film. Enfin, l'implication qu'elle va avoir dans ses films, elle va vraiment le démarrer avec Welles. C'est-à-dire qu'elle a pas peur, quoi. Romy Schneider, je trouve ça incroyable. C'est Orson Welles, quoi. Et dans le Wells, elle est incroyable. Et dans Le combat dans l'île de Cavalier, qui est un film que j'adore, elle est aussi magnifique.
Faustine Saint-Geniès.
Il y a ce que vous disiez aussi sur le travail, c'est que vous parliez du film d'Alain Cavalier. Moi, je suis bluffée de la découvrir dans ce film avec quasiment pas d'accent. Elle a appris le français en tellement peu de temps. Elle l'a appris pour « Dommage qu'elle soit une putain », c'est ce que vous disiez. Et alors au départ, on lui cherche un peu des prétextes pour son accent. Alors elle a peut-être un père allemand ou elle est peut-être d'origine alsacienne ou des choses comme ça. Mais très rapidement, les metteurs en scène n'ont plus besoin d'excuses. On n'entend plus son accent, il a disparu. C'est assez rare dans le cinéma français d'avoir des acteurs comme ça qui sont étrangers. Enfin, je veux dire, elle n'est pas française, qui ont cette capacité à se fondre dans le cinéma français et au point de devenir l'actrice française par excellence et de recevoir le premier César de la meilleure actrice française en étant allemande.
Ça, on va y arriver dans sa période grande actrice française dans les années 70. Mais il y a une pièce un peu mystérieuse, un peu secrète au milieu de cette exposition où là, ce n'est plus Romy Schneider sans maquillage, c'est Romy Schneider avec des maquillages étranges bleus, verts sur le visage. Ce sont les images d'un film longtemps invisible jusqu'à ce que Serge Brombert le retrouve. Entebbe, ce sont les expérimentations de Clouseau sur le visage et sur le corps de Romy Schneider.
Oui, mais il y a une chose, je pense que Romy Schneider avait, avec les grands cinéastes avec qui elle avait tourné, c'est que il y avait un côté iconique, presque plastique, qui les fascinait, mais qui n'était pas incompatible avec l'affectivité échangée avec ces cinéastes. Moi, je me souviens, par exemple, dans Le procès, il y a cette étrange malformation de la main qu'elle a, il y a un côté un peu monstrueux, et puis il y a un plan qui m'a frappé, qui dure quelques secondes, où on a l'impression qu'elle est fragmentée par un miroir. Enfin, voilà, elle induit des jeux cinématographiques auprès de ces cinéastes, et effectivement, ce qu'aurait été l'expérience de l'enfer, si le film un jour avait été terminé par Clouseau, c'est une sorte de mosaïque d'avant-garde où Romy Schneider à la fois sublime et en même temps déconstruit son côté iconique qui existe et qui je pense a été pour une grande part dans cette identification du public à l'image de Romy Schneider.
Bouge pas, j'y vais.
Non, reste là, laisse sonner.
Mais attends, je vais venir.
Non, tu resteras là.
Mais si, j'y vais.
Non.
Et nous voilà devant une piscine, immense photo de tournage du film du même nom de Jacques Deray. Et c'est là que tout change, on peut dire, pour Romy Schneider, en France en tout cas. Immense succès du film, retrouvailles avec Alain Delon, un jeu qu'on sent très voulu de Jacques Deray sur l'ambivalence et le rapport très intime de ces deux comédiens. Qu'est-ce qui se passe avec la piscine? On est en 1968, Clémentine de Rouilly.
Vous l'avez bien dit, on est en 1968, on est juste après mai 68, le tournage est une espèce de... Ils sont en vase clos, comme ça, dans le sud de la France, et un tournage absolument magique, c'est la retrouvaille de ce couple mythique, ce terme un peu galvaudé, mais effectivement, quand même, la beauté absolue d'Alain Delon et de Romy Schneider, cette espèce d'hypersexualisation, ce film, effectivement, qui remporte un succès énorme et qui correspond. Vous savez, il y a des films qui correspondent à une époque, quoi. Et La Piscine, c'est vraiment, vraiment le cas. Et puis, évidemment, bah, c'est grâce à La Piscine qu'elle fait une des autres rencontres essentielles, fondamentales de sa vie, qui est Claude Sautet, puisque Claude Sautet est en train de préparer les choses de la vie. Il cherche son actrice. On lui parle de Romy Schneider. Il n'a jamais vu un de ses films. Et puis, on lui dit qu'elle fait la post-synchro à Boulogne-Billancourt, au studio. Il y va et puis il découvre une petite bonne femme à lunettes avec son impère. Il ne peut même pas penser que cette femme est Romy Schneider. Voilà, et puis après, c'est ce qu'on connaît. Et voilà, donc oui, ce film est essentiel. Essentiel, mais parce que aussi, la vie et la carrière de Romy Schneider, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu peur des aventures, qui n'a jamais eu peur des ruptures, de tout recommencer. Et effectivement, c'est encore une nouvelle fois une rupture fondamentale où tout d'un coup, sa vie à Berlin va changer parce que elle va devenir... avec La Piscine et évidemment avec Claude Sautet, ce dont on va parler, c'est-à-dire l'incarnation de la femme moderne, l'incarnation de la femme française. Voilà.
Ce qu'elle n'est pas exactement dans La Piscine, c'est-à-dire que dans La Piscine, c'est un personnage extrêmement glamour, elle fait tout le film en bikini, c'est aussi le personnage de la femme fatale. Faustine Saint-Geniès, c'est étonnamment quelque chose sur lequel elle aurait pu capitaliser. Et précisément, elle va partir dans une autre direction avec Sautet. On va en parler tout de suite avec Ntebine.
Oui, elle a cette chance, c'est qu'elle a La Piscine qui a tout pour relancer sa carrière, qui a la mise entre parenthèses pour son mari et son fils à Berlin. Et avant même que La Piscine ne sorte, elle rencontre Sautet. Et là, c'est ce qu'ils appellent un coup de foudre créatif. Alors, Sautet aimait dire que c'est un coup de foudre créatif suivi de coup de gueule tonitruant, parce qu'ils ont cette capacité à se comprendre, à se répondre, à s'apaiser. Lui était très colérique, très soupolé, elle était très anxieuse, et il devient son Pygmalion, elle devient sa muse, et c'est presque plus Sautet qui va ouvrir ce nouveau chapitre que La Piscine, parce que c'est avant même la sortie de La Piscine, encore une fois, que cette rencontre incroyable, comme seul le cinéma sait en faire, va avoir lieu.
Dans un travelling purement cinématographique, nous nous sommes déplacés de La Piscine alors là, on pourrait dire le cœur de cette exposition, la partie Sautet. Nous sommes en territoire Ntebine absolu. Et ce qu'on découvre de manière assez étonnante, par exemple, les fans de Sautet le savaient, ceux qui ont lu tout votre travail sur lui aussi, Ntebine, c'est qu'en fait, la plupart du temps, sauf pour un film, Sautet ne pense pas du tout à Romy Schneider quand il écrit.
Oui, c'est... Alors... Ce qui est compliqué avec la relation Schneider-Sautet, à mon avis, c'est que c'est plus que Pygmalion et sa muse. Ou alors, ça peut aussi être l'inverse. Romy Schneider est aussi le Pygmalion de Claude Sautet, puisque pour la première fois, Claude Sautet arrive à filmer des personnages féminins. Et tout simplement, il y arrive parce qu'il s'y identifie. Philippe Sard, il dit, mais dans Les choses de la vie, Piccoli, c'est Sautet. Mais Romy, c'est Sautet. Et ce côté mimétique est très important parce que Sautet, c'est comme une sorte de chef d'orchestre. C'est-à-dire, il dirige à la note, à l'intonation. Et le fait, je crois, que Romy Schneider ne soit pas de langue natale française, fait que quand Sautet lui donne des indications d'intonation, Romy Schneider les suit et se les approprie. Et il va y avoir comme ça une sorte de fusion extraordinaire. Alors, évidemment, il y a Les choses de la vie. Le film a l'importance qu'on sait, mais ils sont tous les deux hyper impatients parce qu'ensuite, il va y avoir le chef-d'œuvre méconnu d'ailleurs, qui est Max et les Ferrailleurs, qui donne, avec le rôle de Romy Schneider en putain, dispute homérique pendant les rushs, où Sautet trouve que Romy est trop belle, et puis du coup, elle sort de la salle de rush en claquant la porte, etc. Mais je crois que là, c'est un film sur deux, en fait, où Romy Schneider propose une persona d'elle, qui va changer complètement son image et sa carrière. Mais bon, le public préfère évidemment les personnages plus souriants de César et Rosalie ou des choses de la vie. Mais dans Max et les Ferrailleurs et dans Mado, cette fragilité qui était la sensibilité, l'hypersensibilité commune du réalisateur et de l'actrice, explose vraiment complètement.
Clémentine de Rudy, vous présentez un très grand nombre là de documents de travail. Alors c'est à la fois le plan de travail, justement, jour après jour, comment on va travailler, des échanges nombreux entre Romy Schneider et Claude Sauté. On voit qu'elle retravaille ses scénarios. Enfin, qu'est-ce qui se joue sur le plan du travail, là, pour le coup, entre Claude Sauté et Romy Schneider? Comment est-ce qu'ils co-construisent ces films?
C'est une vraie collaboration, c'est-à-dire qu'elle a toujours cherché à avoir une espèce de dialogue permanent avec la réalisatrice avec laquelle elle tourne et avec Claude Sauté. Elle trouve ça dans une forme idéale. Alors effectivement, il y a les coups de gueule, il y a les colères, etc. Mais en fait, c'est aussi l'implication des deux dans les films. Alors, ils forment comme une famille putative. Donc, il y a effectivement Philippe Sard, il y a Dabadi, évidemment, au scénario. Et donc, Romy Schneider, tout d'un coup, elle trouve ce qu'elle a cherché pendant si longtemps, c'est-à-dire une collaboration entière. Alors, elle va effectivement arracher, encore une fois, les rôles avec les dents. Je fais une toute petite parenthèse aussi là-dessus. C'est que c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de rencontrer évidemment Jean-Louis Lévy, qui était son agent. Et Jean-Louis me disait très justement que les actrices avaient beaucoup moins de choix. C'est-à-dire que quand les acteurs avaient une proposition de 10 rôles, une actrice en avait 3. Donc effectivement, elle a construit une carrière, mais pas non plus sur une proposition de rôle énorme. Il faut toujours avoir ça en tête aussi. Parce qu'on pense toujours qu'il y a 500 scénarios et puis qu'elle est là en train de choisir. Non.
Oui, alors il y a une chose aussi, c'est que dans ce côté fusionnel, il y a un danger. Ce danger, Sauté en était conscient, et Romy Schneider aussi, c'est le danger de la dépendance, de l'addiction. Et donc, est-ce que Sauté va pouvoir continuer à faire des films sans ses acteurs fétiches? Est-ce que Romy va pouvoir trouver d'autres cinéastes que Claude Sauté? Il y avait comme ça cette contradiction. C'est pour ça qu'il la choisissait jamais en premier, qu'il fallait qu'elle mendie les rôles, et qu'ensuite le couple se reformait. Et puis il y a eu le problème assez compliqué d'une histoire simple, qui était le film que Sauté avait promis à Romy Schneider pour ses 40 ans, un film avec moins de bons hommes. Mais alors, du coup, il y a plein de bonnes femmes, et Romy Schneider lui dit: mais comment? Mais tu m'avais dit un film pour moi seul. Enfin, voilà. Et Sauté, il craignait les rendez-vous avec les acteurs, parce qu'il disait: on peut pas avoir une entrevue amicale avec un acteur. Il est toujours en demande d'un rôle. Et cette dépendance-là, je pense que Romy Schneider, elle l'induisait aussi. Mais ça fait partie de sa force. Elle l'induisait chez les spectateurs et chez les cinéastes.
Vous le décrivez bien, ça, Faustine Saint-Geniesse, cette façon de Romy Schneider de guetter le regard du cinéaste, par exemple, engueuler le cinéaste si pendant une prise il ne l'a pas regardé, et puis un investissement qui va aussi sur un plan émotionnel très fort, parce qu'on dit souvent que pour qu'un cinéaste filme bien une actrice, il faut qu'il tombe amoureux d'elle pendant le tournage, et elle, c'est l'inverse qui se fait. Elle a besoin de ce rapport amoureux, que ce soit avec ses cinéastes ou avec ses partenaires masculins à l'écran.
Et c'est une anecdote de tournage, c'est Jacques Dutronc, quand il s'apprête à commencer le tournage de L'important c'est d'aimer d'André Joulavski, il y a un dîner avec une partie de l'équipe du film, et il est accompagné de son épouse, Françoise Hardy, et en riant, l'équipe dit... Oui, Romy Schneider, de toute façon, il faut qu'elle tombe amoureuse soit du metteur en scène, soit de son partenaire dans le film. André Joulavski est jeune marié, il y a peu de chances qu'elle tombe amoureuse de Fabio Testi, qui est un peu trop bellâtre pour elle. Ce sera toi, il faut que tu te dévoues. De Françoise Hardy, dépitée, qui tire la tronche. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Elle le raconte dans son livre. Elle est à la fois anxieuse et puis furieuse. Et inévitablement, c'est ce qui va se passer. Elle a ce besoin. Moi, je l'explique aussi par le fait qu'elle a commencé son adolescence avec les films. Elle a vécu ses expériences à travers les films. Son premier baiser au cinéma, c'était dans un film, devant une équipe de tournage à 14-15 ans. Et donc, on peut comprendre aussi ce besoin de s'identifier à son personnage, ce besoin de vivre son personnage.
De quel pays tu es?
Je suis allemande.
Comment tu l'as?
J'étais dans un camp de réfugiés en Belgique. Ils nous ont libérés tout de suite.
Mais pourquoi tu n'as pas attendu les Allemands?
Je suis allemande, mais juif.
Et alors?
Mais tu sais, chez nous, il y a des gens qui nous aiment pas tellement. Ils veulent nous supprimer.
Comment ça, vous supprimer?
Oui. De froid, de faim, de peur. Dans des camps.
Mais pourquoi dans des camps? Qu'est-ce que vous avez fait?
Rien.
Et on finit cette visite dans une pièce qui s'appelle à la fois Enquête d'absolu et L'ombre de l'Allemagne. On entend une musique, un violon, qui est celui de la passante du Sans-Souci. Qu'est-ce qui se passe dans cette période de la carrière de Romy Schneider? On est devant ces photogrammes du vieux fusil, une séquence qui a marqué, je crois, tous les spectateurs. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, Clémentine de Rudy?
Alors, c'est plusieurs séquences du vieux fusil, qui est un film magnifique. Il y a la séquence à la Closerie des Lilas avec Philippe Noiret, magnifique. Et puis évidemment, il y a surtout cette séquence de l'exécution où elle est brûlée vive. Moi, j'ai voulu appuyer vraiment sur cette période pour montrer de quelle manière il y a une forme de rédemption. Enfin, je ne sais pas quel terme on peut employer, mais en fait, Romy Schneider a véritablement contribué à la prise de conscience de l'Holocauste, de la Seconde Guerre mondiale, à travers ce qu'elle savait mieux le faire, c'est-à-dire le cinéma. Et donc, dans les années 70, où elle se sent assez forte, où elle est extrêmement célèbre, voilà, elle est une star, même si elle refuse le terme, etc., elle va mettre en œuvre tout son talent et pour jouer dans des films qui ont pour sujet cette partie de l'histoire qui la concerne évidemment personnellement. Et donc, ça sera évidemment Le Train, ça sera Le Vieux Fusil, puis La Passante du Sans-Souci, son dernier film que j'ai décidé de mettre dans cette salle et de ne pas terminer l'exposition sur ce film pour montrer voilà, cette espèce d'arche de 5 films qui sont essentiels pour Romy Schneider. Comme elle dit, je fais du cinéma pour lancer un signal contre les nazis qui ont toujours quelque chose à dire à l'Allemagne. Voilà, je trouve ça incroyablement courageux, incroyablement fort. C'est vrai que Le Vieux Fusil et Le Train sont des films pour moi essentiels dans ce que ça veut dire que l'atrocité de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, merci Romy Schneider. Quoi.
D'autant, Faustine Saint-Geniès, qu'il y aurait des parallèles à tirer entre Romy Schneider et une autre immense star née en Allemagne mais qui a fait toute sa carrière à l'étranger, c'est Marlène Dietrich, et il se trouve que quand Romy Schneider est en France, elle va souvent voir Marlène Dietrich, en tout cas elle est en relation avec elle.
Oui, il y a quelque chose qui émeut beaucoup Marlène Dietrich quand elle voit cette gamine, parce que c'est une toute jeune femme qui arrive en France, qui parle à peine français, on l'a dit, et puis qui est perdue parce qu'elle vit dans l'ombre d'Alain Delon qui lui devient une star. Et elle se confie de plus en plus à Marlène Dietrich, qui est un peu l'anti-Magda Schneider. En tout cas, dans le regard de Romy, Marlène, c'est celle qui a fait les bons choix quand sa mère a fait les mauvais. Alors, on a déjà évoqué Magda Schneider. Elle est restée en Allemagne, parce que sa carrière était au fait de sa gloire, ça l'arrangeait aussi de tourner avec Loufa et d'être comme ça l'incarnation du cinéma allemand nazi. Et il ne faut pas non plus idéaliser Marlène Dietrich, elle est partie un petit peu avant l'avènement du nazisme, c'est-à-dire qu'elle a fait des choix très forts, mais elle est partie parce qu'elle avait un contrat. Elle est partie pour honorer un contrat à Hollywood. Après, elle a choisi de prendre la nationalité américaine, elle a choisi de quitter Hollywood et le confort et le luxe d'Hollywood pour aller distraire et soutenir moralement les soldats sur le front. Et c'est ça aussi qui fait une proximité entre les deux femmes. Et à elle, et presque à elle seule, j'ose dire, Romy Schneider s'est confiée sur le passé de ses parents et ce poids qu'elle devait porter presque seule, ce poids qui explique une partie de sa filmographie. Et Marlène Dietrich va lui donner des conseils, va l'apaiser, va la calmer, va lui donner des conseils amoureux aussi par la même occasion. Il y a cette proximité des deux femmes qui est très marquante et qui va durer jusqu'à la fin de la vie de Romy Schneider, puisqu'elles continueront, même quand Marlène Dietrich sera recluse dans son appartement, elles continueront à avoir une liaison épistolaire ou en tout cas elles s'enverront des colis et des lettres.
Intéville. Oui, c'est dans votre livre, en fait, que j'ai découvert cette complicité entre Romy Schneider et Marlène Dietrich. Alors là, c'est hallucinant parce que là, on se trouve en face d'une affiche italienne du Vieux Fusil de Robert Enrico. Et le titre italien, en fait, du Vieux Fusil, c'était Frau Marlène, ce qui est extraordinaire. Mais c'est vrai que les parallèles sont assez fascinants. Marlène Gabin, Romy Delon, enfin, les films ensemble, les projets ensemble qui ne se font pas, etc. Mais il y a une chose que Romy Schneider aussi, enfin, a incarné beaucoup plus que Marlène, c'est justement, on l'a déjà dit, la femme française d'origine germanique. Mais ça avait commencé un petit peu avec Maria Schell, juste après la guerre. C'est-à-dire, c'est étrange que le public français, comme ça, se soit reconnu, et surtout les femmes, à travers deux actrices germaniques, à la suite, et, qui ont incarné une sorte de renouveau de la femme, je dirais, française devenue européenne, en quelque sorte.
Anyway, it's you I love. And not Trotsky.
Bonsoir.
Bonsoir.
Clara.
Steve.
Non, merci. Excuse-moi.
He's an extraordinary man.
Il faut se quitter.
I think you ought to see him. He may need you.
Les avions partiront sans nous.
He probably only sees people who flatter him.
Je ne sais plus t'aimer, Hélène.
If you want an excuse for going, you can say you're visiting the Rosmers.
I want dans la maison. J'aimais quand nous vivions comme dans un dessin d'enfant. Tu ne m'aimes plus. Je regarde le soir.
L'exposition Romy Schneider à la Cinémathèque française se poursuit jusqu'au 31 juillet 2022. Elle s'accompagne d'un beau catalogue écrit par Clémentine de Roudy et coédité par Flammarion et la Cinémathèque française. Quant au livre de Faustine Saint-Geniès, Romy Schneider, les actrices se brisent si facilement, il sort jeudi prochain chez Capricci. L'actrice est bien sûr à retrouver sur grand écran avec la rétrospective de ses films à la Cinémathèque également jusqu'au 31 juillet, mais aussi sur vos plateformes numériques, Netflix, qui sponsorise l'exposition, et la Cinéthèque, où on peut retrouver 7 de ses films, Le Combat dans l'île, Les Choses de la vie, Max et les Ferrailleurs, Ludwig ou Le Crépuscule des Dieux, César et Rosalie, L'Important c'est d'aimer et La Mort en direct. Nous avons à cette occasion le bonheur de commencer aujourd'hui un partenariat avec la Cinéthèque, la cinémathèque en ligne programmée par des cinéastes où on retrouve les grands films de l'histoire du cinéma. Nous vous en dirons plus prochainement, mais dès aujourd'hui, vous pouvez gagner des cinépass de la Cinéthèque pour découvrir les films de Romy Schneider. Pour jouer, rien de plus simple, c'est sur la page Plan Large de franceculture.com. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large, il est temps, comme chaque samedi, d'ouvrir le journal du cinéma avec des sorties et ressorties de cette semaine. On y croise des prolétaires et des aristocrates, des mythes et des freaks, un pistolero solitaire et une danseuse blessée.
Avenida Carmela, avenida!
Je ne tuerai personne.
À la guerre comme à la guerre, tu dois te servir de tes pouvoirs.
C'est pas des pouvoirs. C'est une malédiction.
Non ! Cette immonde créature doit disparaître. Reviens me voir avec un plan.
C'è un uomo che fa tremare i cacciatori di taglie quando lo incontro. Lo chiamano silenzio.
Elle voulait tout me dire. Et son verbe s'emballait, intarissable.
On est une compagnie de danse contemporaine.
Moi, c'est toujours les résidents que je préfère, c'est les danseurs, parce que...
Quand ils bougent, tu veux dire quand
avec les...
Le corps. Quand ils bougent avec le corps.
Quand ils bougent avec le corps.
Le mouvement.
Oui, oui.
Quand ils dansent, quoi.
Sur vos écrans depuis ce mercredi, un chaînon manquant entre le néo-réalisme et la comédie italienne, c'est Dessous d'espoir de l'injustement oublié Renato Castellani, réalisateur emblématique du surréalisme rose, Palme d'or ex aequo à Cannes en 1952, avec L'Othello d'Orson Welles. Le film sur le chômage des classes laborieuses dans l'Italie du Sud ressort en salle en version restaurée. D'autres prolétaires des mineurs boliviens pris au piège asphyxiant de La Paz, c'est le très politique autant que poétique, le grand mouvement de Kiro Rousseau entre néoréalisme, là encore, et symphonie urbaine, comme on en faisait au temps du cinéma muet. Des monstres de cirque, un nain onaniste et magnétique, un loup-garou lettré, un albinos dompteur d'insectes et une fille électrique qui lutte contre les nazis dans l'Italie de 1943, c'est Freaks Out, la réponse transalpine au film de super-héros type X-Men signé Gabriele Mainetti. Une relecture libre du mythe d'Icare qui met à mal l'héroïsme viriliste de l'Antiquité grecque, c'est le beau dessin animé Icare, précisément signé d'un ancien des studios Hardman et Pixar, il y a pire école, le luxembourgeois Carlo Vogelé. La reproduction sociale dans un Tokyo très compartimenté où on ne croise que des gens de sa propre classe, c'est l'assez classique Aristocrats de Yukiko Sode, dont on saluera toutefois le point de vue féminin et quelques audaces temporelles. Un pistolero mystérieux qui a les traits de Jean-Louis Trintignant face à une horde de tueurs à gages commandée par le cruel Klaus Kinski, c'est le très nihiliste chef-d'œuvre du western spaghetti dont on entend la musique des New Morricone actuellement, Le Grand Silence de Sergio Corbucci, de retour sur grand écran. Il y a encore une adaptation partielle du livre à succès de Didier Héribon qui met de côté la question de l'homosexualité pour se concentrer sur l'oppression des prolétaires, encore en particulier de sexe féminin. C'est Retour à Reims, fragment du génie du montage d'images d'archives Jean-Gabriel Perriot, accompagné par la voix off d'Adèle Haenel, qu'on aurait souhaité un rien moins présente pour laisser vivre les images. Et puis enfin, la révélation d'une actrice habitée, la danseuse de l'opéra Marion Barbeau, c'est Encore de Cédric Clapiche, à qui on pardonnera les facilités scénaristiques étant donné la beauté envoûtante de ses nombreuses scènes dansées. Et puis place à présent aux vacances, à l'été, au bitter Campari et à la Méditerranée, c'est le décor d'Azzurro, premier long métrage réalisé par le comédien Mathieu Rosé, adaptation très réussie du roman de Marguerite Duras, Les Petits Chevaux de Tarquinia. On y retrouve les journées au soleil et les soirées arrosées d'une bande d'amis qui se connaît par cœur et qui pour la énième fois passent leurs vacances ensemble dans un petit village méditerranéen. Mais derrière l'image de carte postale, il y a la chaleur accablante, presque menaçante, et puis il y a un homme aussi qui arrive par la mer sur un bateau. Il n'en faut pas plus pour faire voler en éclats certaines habitudes et certaines certitudes. Rencontre avec Mathieu Rosé au micro de Marceau Vassy.
Bah alors, qu'est-ce que vous foutez ? Vous attendez pour aller à la plage ?
T'es fou, il fait beaucoup trop chaud.
Dans quelques mois, quand il fera froid, le souvenir de cette chaleur, de ces moments avec vous, m'aidera à supporter la brume et le vent.
T'es poète, mon Vadim. Con et poète à la fois.
La torpeur qui habite le film, la chaleur absolue, le manque de vent, renforce le sentiment de lassitude, d'ennui, de langueur, des vacances où tout se répète éternellement. Mais la torpeur, j'ai l'impression qu'elle amène aussi la possibilité du fantasme. Depuis que je suis plus jeune, j'ai une passion pour Gérard de Nerval. Gérard de Nerval, c'est le mélange de la réalité et la fiction en permanence. Et j'ai retrouvé ça chez Marguerite Duras, en fait. En fait, dans ce roman, il y a quelque chose... on ne sait jamais vraiment, finalement, au bout du compte, si c'est vraiment le fantasme du personnage de Sarah, interprété par Valérie Donzelli, ou la réalité. Et Marguerite Duras, elle a passé son temps et sa vie à mélanger la fiction et la réalité.
Le côté vacances, le côté un peu onirique, le côté intemporel du film est aussi accentué par le grain de pellicule. Vous avez tourné en 16 mm.
Au départ, j'ai été filmer la mer avec de la pellicule et du numérique. Je l'ai montré à mes producteurs, ils m'ont dit « Ok, on le fait en pellicule ». Même si c'est compliqué parce qu'on n'a pas les rushs tout de suite, voilà, c'est compliqué. Mais la pellicule, déjà, c'est magnifique. Pour filmer les corps sur une plage, je trouvais ça absolument sublime. J'avais envie aussi de travailler le film, vous allez voir, il est rouge, il est bleu, il est jaune. Donc tout ça, j'avais envie de travailler ces couleurs à l'étalonnage. Donc ça se fait beaucoup d'une manière plus précise avec la pellicule. Et puis la pellicule, c'est... Dès le départ, on vous raconte une histoire. On est déjà dans un grain, on est déjà dans une atmosphère. Et puis la pellicule, c'est le souvenir du cinéma. Et puis la pellicule, c'est les films de vacances. Voilà. Donc j'avais envie de quelque chose de très brut, et que j'ai reproduit aussi avec les acteurs. C'est-à-dire que les acteurs, que ce soit Valérie Donzelli, Florence Lorecaille, Maya Sanza, Thomas Simeka, Nuno Lopez, Yannick Chouara, c'est des acteurs que j'ai pris parce que je les adorais. Je les ai pris pour ce qu'ils sont, eux, la matière brute, quoi. En fait, j'avais des Stradivarius et je leur ai donné une couleur, mais quand vous avez un magnifique instrument, vous n'avez pas envie de le détruire ou de le transformer, c'était juste... Voilà. Et pareil avec la musique de Kid Francescoli. Quand il a composé la musique, Kid Francescoli, j'ai pris la matière brute, c'est-à-dire que j'ai pris ses premiers jets de la musique, pratiquement ce qu'on appelle des maquettes, pratiquement. On a très très peu retravaillé ça. Et puis j'ai monté le film en mono, par exemple, ce qui se fait plus du tout. C'est-à-dire que le son vient vraiment de l'écran. Il n'y a pas tous ces cinquains dans tous les sens où vous entendez des avions qui arrivent dans tous les sens. Voilà. Donc tout ça participe de la même envie de créer quelque chose d'intemporel et j'espère d'universel.
Azzurro est en salle depuis ce mercredi et pour anticiper votre été, la bande originale du film, réalisée donc par Kid Francescoli, est disponible à l'écoute sur toutes les plateformes. Je vous rappelle que le 8e prix cinéma des étudiants France Culture recrute son jury. Il vous suffit, étudiantes et étudiants, d'envoyer sur la page dédiée du site de France Culture la critique d'un film écrite, orale ou filmée. Le prix parmi les 5 finalistes sera remis au prochain Festival de Cannes. Ceci annoncé, c'est l'heure d'une sacrée bonne nouvelle.
En quoi puis-je vous être utile?
Est-ce que ces messieurs vont rester manger?
Je voudrais vous poser quelques questions.
Très bien.
Monsieur Deeds, êtes-vous le fils du docteur Joseph et de Mary Deeds?
Oui.
Vos parents sont en vie?
Ah non.
Bien, monsieur Deeds, est-ce que le nom de Martin Semple vous est familier? Le connaissez-vous?
Un peu, c'est un oncle à moi, je crois. Je n'ai pas dû le voir, mais ma mère, elle, s'appelait Semple, que je sache.
Il vient de mourir. Oui, il vient d'être tué d'une mort accidentelle en Italie.
C'est vrai?
Oui.
Voilà une triste mort. S'il y a quelque chose que je puisse faire...
Je vous apporte des nouvelles très intéressantes. Votre oncle, en mourant, a laissé une fortune importante. Elle est tout entière à vous, monsieur Deeds. Déduction faite des taxes, l'estimation des biens vous revenant approche les 50 millions de dollars.
Qu'est-ce que je prépare? Est-ce que ces messieurs vont rester, oui ou non?
Bien sûr qu'ils vont rester. Vous goûterez son flan à l'orange. C'est délicieux, vous savez, avec une grosse couche de crème. Nous ne les laisserons pas aller à l'hôtel.
Avez-vous bien entendu ce que j'ai dit, monsieur Deeds? L'énorme patrimoine de votre oncle vous revient. 50 millions de dollars.
Ah oui, je vous ai entendu. 50 millions. Ça en fait de l'argent.
Ah, je me contenterai d'une petite pincée.
Mais ça a l'air, quelle drôle d'idée de me léguer cette fortune. À moi tout ça, je ne sais qu'en faire.
Modeste tailleur du Vermont et tubiste amateur, c'est lui qu'on entendait jouer, que l'annonce de sa fortune soudaine ne semble pas troubler outre mesure, c'est, avec Gary Cooper dans le rôle-titre, l'extravagant Mr. Deeds, qui vaudra à Frank Capra en 1936 son deuxième Oscar du meilleur réalisateur, après la rafle des 5 statuettes principales par son film précédent New York-Miami. L'extravagant Mr. Deeds est le meilleur film de Frank Capra, autrement dit, la meilleure comédie qu'on ait jamais pu voir à ce jour sur un grand écran. C'est Graham Greene qui écrit ça quand il le découvre à l'époque et évidemment, il n'avait pas encore vu les chefs-d'œuvre à venir. Peut-on dire en tout cas, Ntebin, que c'est avec ce film que Frank Capra devient véritablement Frank Capra?
Non, on ne peut pas dire ça. Non. En revanche, il devient le Frank Capra qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il raconte l'histoire de Grand Daddy, joué par Gary Cooper ou par James Stewart, et qui vont se heurter à un monde corrompu, à un monde factice et hypocrite. Ça oui, là, c'est le premier de ces films-là. Mais Frank Capra avait déjà fait des chefs-d'œuvre, déjà depuis la période muette d'ailleurs, des films burlesques avec Harry Langdon. Il en restera toujours quelque chose dans presque tous ses films. Et puis, dans la première période parlante de Frank Capra, il a fait notamment des mélodrames absolument admirables, surtout avec Barbara Stanwyck, notamment, qu'il a découverte, dont mon film préféré de Capra, hein, qui date de 1932, 4 ans avant l'extravagant Mr. Deeds, qui est La Grande Muraille de Bitter Tea of General Yen, qui, pour Capra, c'était un film d'art avec un grand A. Et c'est un film qui, à l'époque, avait été interdit dans l'Empire britannique parce qu'il racontait une histoire d'amour entre une Américaine, jouée par Barbara Stanwyck, et un général, un seigneur de guerre chinois. Je pense qu'aujourd'hui, il serait interdit pour d'autres raisons, parce que le chinois était interprété par un Suédois.
Revenons à Deeds, si vous voulez bien.
Pour Deeds, il se trouve que, effectivement, comment survivre à un tel triomphe? Les 5 Oscars, voilà. C'est surtout que c'est tout ce dont Capra, le petit immigré italien, le seul de sa famille à avoir fait des études, a rêvé. Il se trouve la seule star du petit studio Columbia. Donc il a les pleins pouvoirs. Et c'est un peu ce qui arrive à Deeds. C'est-à-dire du jour au lendemain, il va se retrouver avec ce pouvoir-là et qu'est-ce qu'il peut en faire? Donc, à mon avis, c'est un film très autobiographique, mais déguisé. Et c'est aussi une profession de foi. Puisque à l'époque, New York Miami lance définitivement ce qu'on va appeler la screwball comédie, c'est-à-dire la comédie loufoque, la comédie où les personnages sont un peu fous. Et dans Mr. Deeds, eh bien, on le prend pour un fou et on va découvrir qu'en fait, c'est la seule personne sensée de tout le film. Donc voilà, il y a comme ça une sorte de démythification en même temps que Capra construit son propre mythe, puisque dans ses mémoires, il racontera qu'il a été visité par un petit homme qui lui a parlé de la crise, qui lui a fait honte d'avoir fait des films futiles jusqu'à présent. Ce qui n'est pas vrai, d'ailleurs. Il avait déjà fait des films sociaux avant. Il construit sa propre image à travers une fiction admirablement écrite par Robert Riskin et mise en scène au cordeau. C'est-à-dire que il y a une chose sur laquelle on insiste rarement, c'est la virtuosité formelle de la mise en scène de Capra avec l'aide de son chef opérateur Joseph Walker. La lumière, alors il faut vraiment rendre justice à la restauration.
Une superbe copie, oui.
Une copie sublime. Il reste à attendre de pouvoir le voir dans une salle de cinéma avec des spectateurs qui rient et qui pleurent. Puisque, l'univers de Capra, d'ailleurs Graham Greene, dans l'article que vous avez cité, il le compare à Chaplin. Mais il dit, ce serait un Chaplin qui aurait la virtuosité technique de Fritz Lang. Donc il le compare aussi un petit peu à Lou Beach. C'est vrai que on ne peut pas s'empêcher de comparer ces deux grands maîtres de la comédie américaine. Et alors, notamment, il y a la notion qui, moi, m'a frappé dans cette sublime copie, c'est ce qu'on appelait la photogénie, on en parlait pour Romy Schneider tout à l'heure. Pour donner une définition de la photogénie, il n'y a qu'à voir ce film. Bon, c'est aussi un film qu'on peut voir parce qu'on a le moral dans les chaussettes, on le voit une fois par semaine, et c'est thérapeutique. Mais si on s'intéresse un petit peu à la façon dont les films sont faits, vous allez voir que Gene Arthur, moi je dis Arthur, hein, je dis pas Romy Schneider, hein, Gene Arthur et Gary Cooper, quand ils sont ensemble à l'écran, c'est un miracle. Parce que quand il y en a un qui fait quelque chose, l'autre le regarde ou l'écoute, et inversement. Et ça, on l'a appris quand on faisait des films burlesques. L'action et la réaction sont aussi importantes. Et ces deux personnes-là sur un écran, mais la photogénie, elle s'applique même à leur voix. C'est-à-dire que il y a un de ces moments improvisés comme Capra aimait en faire. Il y a une chanson dans le bus de New York Miami. Ici, tout d'un coup, le personnage annonce de Jane Arthur qu'elle sait chanter et puis lui il va l'accompagner au tuba.
I suppose you could do better.
Sure. I can sing humoresque.
Humoresque? I bet you don't even know how it goes.
Sure, look. You sing it over again, and I'll do humoresque with it.
You better be good.
I wonder if they want to make it a quartet.
Shh. Ready?
Yeah.
Fire engine. I want to see what they're doing. Wait.
Merci Anne Thébine. L'extravagant Mr. Deeds de Frank Capra est superbement, il faut le dire, édité en combo DVD Blu-ray par Wildside Video, avec beaucoup de bonus, dont une interview du cinéaste, c'était dans Cinéma Cinéma, et un livre richement illustré de Frédéric Albert Lévy, qui s'appelle Sous le signe du Capricorne. Il fallait l'oser quand même. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son d'Ali Yaha, l'émission était préparée par Marceau Vassy et réalisée par Nathalie Salles.